Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz. » Le maître dit « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Versets 26 à 29. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Notre vocation, c'est de servir Dieu. J'ai déjà donné plusieurs messages sur le rôle de l'Église. Et en particulier, nous avons ce devoir d'adresser un culte que le Seigneur agrée. C'est ce que le Seigneur attend de nous, un culte qui lui soit agréable. Et en cela, il y a plusieurs éléments du culte. Et à la lecture donc de ce texte, j'ai intitulé mon message « L'Église et ses actes symboliques ». Nous parlerons ce matin de la scène. Des symboles, justement, comme éléments de notre culte. Et ce matin, nous parlerons de la Sainte Cène. Alors, pour introduire donc ce message, j'ai noté que Dieu a choisi de nombreux moyens et formes différents pour communiquer ses pensées, comme les paraboles, les symboles, etc. Plusieurs moyens de communication. Jésus-Christ a institué pour son Église des actes symboliques, dont le baptême. C'en est un. Le baptême doit être pratiqué par immersion absolue, donc totale dans l'eau. C'est le sens même du mot grec « baptizo ». Immersion, et c'est ce que nous pratiquons ici, dans notre Église. L'orthodoxie biblique, c'est notre maître mot. L'immersion dans l'eau, l'émergence de l'eau, évoque deux images de notre salut. La première, le bain de la régénération, ceci on peut le voir en titre, ce qui signifie la purification des péchés. La seconde, l'ensevelissement de l'ancienne vie sans Dieu et le début d'une voie nouvelle avec Dieu, et ceci on peut le lire en Romains 6, les versets 3 à 4. Le baptême, en tant que symbole, bien sûr, n'opère pas ces réalités, mais les symbolise. Aussi, le baptisé est censé être quelqu'un qui les a déjà expérimentés. Lorsque Jésus ordonne aux apôtres de faire des disciples et de les baptiser, il leur ordonne aussi de leur enseigner à observer tout ce qu'il leur a prescrit. Et ça, on le voit en Matthieu chapitre 28 et au verset 20. Justement, au nombre de ces prescriptions, il y a un autre acte symbolique qui est la scène. Donc deux actes institués par le Seigneur lui-même, des symboles. Alors ce matin, je vous propose d'examiner les principaux enseignements bibliques concernant la Sainte Cène. Et pour cela, nous allons commencer par donner un aperçu général de la scène, après quoi nous répondrons à la question de savoir qu'est-ce que la scène nous apporte de bienfaisant. Deux points que j'aimerais donc développer ce matin. En premier, un aperçu général de la scène. Pour beaucoup, ce sont des rappels, mais il est parfois bon que l'on se remémore toutes ces choses. Vocation à rendre un culte agréable au Seigneur. En premier, comme le baptême, la scène est instituée par Christ. C'est ce que j'ai dit en introduction. La Bible, et en particulier le Nouveau Testament, donne quatre récits similaires mais complémentaires de l'institution de la scène. Quatre récits. Les récits de Matthieu 26, 26 à 29 et Marc 14, 22 à 25 sont très semblables. Nous venons de lire le récit de Matthieu 26, 26 à 29. Très semblable à celui de Matthieu. Luc, au chapitre 22, au verset 19 à 20. Et Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, donc au chapitre 11, et verset 23 à 30, le sont aussi. Alors, Luc et Paul rapportent clairement la mention « Faites ceci en mémoire de moi », mais l'intention de Christ, elle est implicite en Matthieu et Marc. Où s'est-elle déroulée, la scène? Nous l'avons lu tout à l'heure dans la chambre haute avec ses disciples. Pourquoi? On peut s'en souvenir que les sacrificateurs cherchaient à s'emparer du Seigneur. Et probablement le Seigneur a trouvé un endroit discret pour être seul avec ses disciples, en prévision, évidemment, de cette scène qu'il allait inaugurer. Se rappeler également que le repas pascal célébrait justement la libération du peuple juif du joug de l'esclavage en Égypte. Lorsque le cœur de Pharaon s'était endurci, ne voulant toujours pas libérer Israël, Dieu avait décidé la mort de tout premier-né égyptien. Souvenons-nous des 10 plaies en Égypte. Les premiers-nés des des Israélites furent épargnés car Dieu avait ordonné d'asperger la porte de leur maison du sang d'un agneau sans tache, sans défaut, sacrifié justement à la place de leur premier-né. Ainsi, l'ange de la mort est passé par-dessus les maisons des Israélites. C'est intéressant. En anglais, la Pâque, c'est Passover. Passer par-dessus. Vous voyez, c'est beaucoup plus parlant par rapport à la Pâque que nous utilisons comme terme en français. Donc, Passover, passer par-dessus, épargner des vies par le sang de l'agneau, l'agneau pascal, immolé, pour épargner des vies. Un point important à relever dans ce repas de Pâques, c'est que Christ et les disciples ont célébré cette Pâque avec un jour d'avance. Par conséquent, l'agneau n'était pas prévu dans ce repas. Jésus ne fait donc pas un rappel de la signification de l'agneau pascal, comme on l'a vu tout à l'heure. Passer par-dessus, Passover. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même l'agneau de Dieu. C'est ce que Jean nous le rapporte dans le chapitre 1, au verset 29. Je suis l'agneau de Dieu. En revanche, il donne une signification nouvelle à d'autres éléments qui étaient là sur la table, en particulier le pain et le vin. Ceci, dit Jésus en parlant du pain, est mon corps qui est donné pour vous. Est donné pour vous, bien sûr, au sens de représente, un symbole. Cette coupe, dit-il à nouveau, en parlant du vin, est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Dans ce sens, pour le pardon des péchés, que nous avons lu tout à l'heure. Une nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance du Sinaï, de Moïse, où également du sang avait été versé pour justement accueillir ces lois. Une nouvelle alliance en son sang. Dans les deux alliances, toujours du sang versé. La scène, elle est donc un acte sérieux qui nous engage. Dans ce contexte, le pain et le vin ont une signification, un symbolisme profond qu'il est important de réaliser. Et c'est ce que nous allons voir en deuxième point, à savoir la signification de la scène. Le Seigneur dit lui-même, faites ceci en mémoire de moi, en Luc, chapitre 22, verset 19, 1 Corinthiens 11, 25, en ce sens que c'est un devoir de mémoire. C'est donc un mémoriel. Manger le pain et boire le vin, qu'est-ce que ça voudrait dire? c'est proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. La mort par laquelle il délivre ceux qui ont foi en lui, de la perdition éternelle et de l'esclavage du péché. C'est donc une proclamation publique que nous accomplissons, proclamation de notre foi en Christ, Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur, celui qui est venu et qui vient. C'est aussi le symbole d'une communion avec Christ, d'une part, et avec les autres membres de l'Assemblée, étant donné que nous sommes un seul corps. Christ en est la tête. La scène est aussi un moment de joie, annonciateur d'un banquet messianique, les noces de l'agneau. Ici, on peut les lire dans le livre de l'Apocalypse. Nous attendons tous ce banquet messianique, les noces de l'agneau. La scène, elle doit également être célébrée dignement et avec discernement. Dignité et discernement. Comment procéder? D'abord, le Seigneur ordonne à ses disciples de faire ce qu'il fait. Faites ceci, à savoir, prenant successivement le pain et la coupe, expliquer leur signification et en rendre grâce à Dieu. Comment procéder? Ensuite, qui peut présider et distribuer la scène? J'avoue que j'ai pas trouvé de texte dans l'Écriture qui en parle. Donc, autrement dit, l'Écriture ne dit rien à ce propos. Par conséquent, ces rôles ne sont pas réservés à une personne ordonnée à cet effet. L'Écriture ne dit rien de spécifique à ce propos. En revanche, tout ce qui concerne le culte du Seigneur doit être établi dans l'ordre et dans la bienséance. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc, comme pour d'autres aspects du culte, la règle essentielle est que tout se fasse avec bienséance et ordre. Donc, ceci, on le voit en 1 Corinthiens 14, 40. Qui peut participer à la scène? Là aussi, uniquement des croyants, au sens biblique du mot, savoir des personnes ayant reçu le salut par la foi en Christ. L'Écriture donne plusieurs textes dans ce sens. Là, j'ai retenu un texte dans Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Par la grâce, par le moyen de la foi, doit-on refuser de prendre la scène quand on est appelé, sauvé par la grâce? Je pense que non. Mais, en principe, la scène est réservée uniquement à des personnes ayant confessé leur foi par le baptême, sur le principe. Là, c'est écrit. En Actes 2, 41, il est dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Sur le principe. Actes 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le baptême, en tant que symbole du début de la vie chrétienne, et la scène en tant que symbole de la suite de la vie chrétienne. Voyez-vous, il y a une certaine logique. On est sauvé par grâce. On a la foi dans l'assemblée. Nous permettons que des hommes et des femmes qui font profession de foi, sauvés par grâce, qui n'ont pas encore pris le baptême, puissent communier avec nous. Mais en principe, c'est ceux qui ont professé leur foi par le baptême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'on a professé sa foi, dès qu'on l'a reçue cette foi par grâce, mécaniquement, ça devrait se concrétiser par la suite, par le baptême. Donc voilà pourquoi nous sommes favorables sur ces deux aspects en ce qui concerne les personnes à même de prendre la scène au milieu de nous. Ensuite, comment participer à la scène? Dieu nous met en garde contre le danger de manger et de boire indignement, verset 27, donc dans 1 Corinthiens 11, sans discerner le corps du Seigneur. Donc c'est le verset 29. La conséquence de l'absence de discernement, c'est évidemment un jugement en lieu et place de la bénédiction attendu. En 1 Corinthiens 11, au verset 30, nous pouvons lire ceci. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. L'absence de discernement. Que faire justement pour ne pas en arriver là? C'est encore l'Écriture qui nous donne la réponse. Ça veut dire que chacun est appelé à s'éprouver lui-même, verset 28, et à se juger lui-même, verset 31. Une fois cela fait, et le cas échéant, le Seigneur lui demande donc de demander pardon à Dieu ou à un frère en cas de conflit avant de prendre la scène. On l'a dit tout à l'heure, nous sommes en communion les uns envers les autres, et aussi avec Christ. Comment prendre la scène si nous avons un différend avec un frère ou une sœur? Et donc le Seigneur nous recommande de demander pardon, c'est dans les deux sens. Et puis, donc être en règle entre nous, dans la communauté, dans l'assemblée, avant de prendre la scène. Donc voilà ce que le Seigneur nous demande dans ces cas de figure. Donc s'examiner soi-même, c'est aussi important. Donc ça veut dire qu'il faut savoir se remettre en cause lorsque l'on sent que on est quelque part défaillant par rapport à sa marche chrétienne. Et alors, pour résumer un peu tout ce que l'on a vu sur l'aperçu général de la scène, j'ai noté que prendre la scène, c'est regarder à la fois son passé, et donc on se place dans une situation de reconnaissance à Christ pour tout ce qu'il a accompli pour nous, On a rappelé tout à l'heure le peuple de Zabulon et de Nephtali. Dans les ténèbres, à l'ombre de la mort, ils ont vu une grande lumière. Nous aussi, nous étions dans les ténèbres. Donc soyons reconnaissants de ce que Christ nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc ça demande un regard rétrospectif sur notre condition de mort spirituelle, de condamné et de séparé de l'amour et de la grâce de Dieu. Ensuite, sont présents avec sincérité. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Y a-t-il un péché à confesser et à répudier? C'est à chacun de s'examiner, donc regarder à soi. Puis, regarder autour de soi. Une relation tendue à rétablir ou un pardon à accorder. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Regardez autour de soi. La communion fraternelle. Et ça va même très loin. Le Seigneur nous demande d'être, si possible, en paix avec tous les hommes. On ne peut pas se présenter devant le Seigneur et être dans l'amertume. Autant que possible, être en paix avec tous les hommes. Regarder autour de soi. Une vision panoramique autour de soi. Ensuite, l'horizon. Regarde devant. Comment? Avec joie. Le retour glorieux de Christ. Quand nous prenons la scène, nous annonçons aussi ce retour en gloire de notre Seigneur. Dans un environnement, dans un monde qui se meurt, sans boussole, nous avons la mienne. Le regard rivé sur l'horizon, scrutant le retour en gloire de notre Seigneur. Alors, bien sûr, si nous remplissons ces conditions, qu'est-ce que la scène nous apporte de bienfaisant? C'est un peu ce que nous allons examiner ensemble maintenant. Quels sont les bienfaits que nous recevons lorsque nous prenons la scène? En prenant la scène, après avoir, d'une part, mis notre foi en Christ crucifié et ressuscité pour notre salut, d'autre part, en discernant sa signification et les conditions pour y participer dignement, alors nous serons l'objet de plusieurs bienfaits spirituels. Plusieurs bienfaits spirituels. Premièrement, lorsque nous prenons dignement la scène, elle nous rend plus humbles et nous rappelle que nous sommes de grands pécheurs. De grands pécheurs. La scène nous rappelle, j'ai noté, le poids de notre culpabilité. Dieu lui-même qui donne sa vie pour ses créatures. Nous sommes hautement coupables. Combien sommes-nous indignes? Cela nous aide à demeurer humbles et à ne pas être tentés par l'orgueil. Ça nous remet un peu à notre place. L'humilité, ça nous aide à ne pas être orgueilleux. La scène nous rassure et nous réjouit en nous rappelant que nous avons un grand sauveur. Il n'y a que les grands. Le grand pécheur en face d'un grand sauveur. L'Écriture nous le rappelle. À la croix, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tout est accompli. Alors là, absolument tout. Vous pouvez les lire en Jean 19:30. Tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Absolument tout. Quelle assurance! C'est l'objet de nos moments de repentance et d'assurance de la grâce. Tout et absolument tout est accompli. J'ai noté en Romains 8, 34, c'est Paul qui s'exprime. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Quelle grâce! Quelle assurance! La scène nous fait aussi avancer sur le chemin de la sanctification. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. La marche dans la sanctification. Souvenons-nous, prendre indignement la scène signifie s'éprouver et nous juger nous-mêmes. C'est donc une formidable occasion. Si nécessaire, est-il encore écrit, nous demandons pardon à Dieu ou à notre prochain avant de communier. Marcher sur le sentier de la sanctification. Voilà un des bienfaits également de la scène. Ça nous donne de progresser sur ce chemin sur lequel le Seigneur nous convie. Ainsi, en réitérant notre reconnaissance à Christ, cela nous incite à vivre pour celui qui a donné sa vie pour notre salut. En résumé, j'ai noté que prendre la scène dignement nous conduit à fuir davantage le péché et à aimer davantage notre Sauveur et donc à mieux lui obéir. La foi se fortifie et la repentance gagne en profondeur. Pour conclure, j'ai noté que prendre dignement la scène, c'est l'occasion d'un regard à Christ, d'une part, à soi-même et autour de soi. La conséquence de ces regards croisés, c'est l'amour grandissant pour Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu bénisse l'enseignement de sa parole. Amen.